Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Julien Michel. Porter son regard cette semaine sur un précepte énoncé par Descartes en 1637 dans son discours de la méthode qui a été au cours de mon existence un appui aussi important que le discernement de ce qui dépend de nous, prôné par Épictète. Je vous le lis. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde, et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est, au regard de nous, absolument impossible. Aujourd'hui, je reçois une demi-douzaine de ministres dans la même personne, président du Conseil constitutionnel depuis 2016. Cet homme d'État s'est illustré par son éminence dans toutes les fonctions qu'il a occupées. 20 sur 20 à l'épreuve de philosophie du bac, reçu premier à l'agrégation de lettres modernes, Sciences Po, ENS, ENA, plus jeune chef de gouvernement de la 5e République au moment où il devient Premier ministre, plus jeune président de l'Assemblée nationale, tour à tour et dans le désordre, ministre des Affaires étrangères, de l'économie, de l'industrie et de la recherche, et ministre délégué au budget. Cet ancien maire du Grand Quevilly fut aussi député et premier secrétaire du PS et président de l'Assemblée nationale. Dans le temps libre qu'il doit avoir par la magie d'un sortilège, celui qu'on dit omniscient s'intéresse à la peinture. Après un livre consacré aux tableaux qui font la France, il a publié cette année Tableau pluriel, voyage parmi les polyptiques d'hier et d'aujourd'hui chez Gallimard. Un polyptyque, c'est en résumé une peinture en plusieurs panneaux, et je vais essayer de faire abstraction du fait que la sonorité soit très proche de politique.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour et puis merci de m'avoir invité.
Ah ben non, avec grand plaisir. Première question, inévitable, êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Je dirais que c'est un fait avec lequel j'ai dû m'accommoder. Mais j'ai essayé de faire que ma vie soit utile, voilà.
Donc ça n'a pas été une évidence ?
Qu'elle soit utile.
D'être content, le contentement d'être né.
Je suis d'un tempérament plutôt optimiste, mais en même temps, j'essaie d'être lucide, donc je regarde les difficultés du monde, et puis j'essaye d'agir pour faire mon possible et réduire ces difficultés. Mais j'ai eu une belle vie, elle n'est pas finie. J'espère que ce n'est pas à la sortie de ce studio qu'elle se terminera immédiatement. Il faut se méfier d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que j'ai pas mal de personnes qui vont consulter leur cardiologue, et le cardiologue dit « ça va bien », et à la sortie, boum. Faisons attention. Mais enfin, aujourd'hui, non. Je pense que grâce à vous, ça va bien se passer.
Alors écoutez, j'espère, c'est une grande responsabilité.
Chef-d'œuvre en péril.
Ah oui. Et en parlant de ça, j'imagine qu'à la griserie d'avoir un effet réel et direct sur la marche d'un État se mêle l'inquiétude induite par l'importance de la responsabilité. Avez-vous souvent eu peur, Laurent Fabius ? Parce que les politiques, je sais que vous n'êtes plus politique, entre guillemets, aujourd'hui, mais les politiques ne le montrent jamais. Comment est-ce qu'on gère la peur quand on est un homme d'État ?
Non, je ne me souviens pas avoir eu peur personnellement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il se trouve des situations où, je répète, quand on est lucide, on voit bien les dangers pour son pays ou pour le continent auquel on appartient. Et ça, ça m'est arrivé. Lorsque, par exemple, j'ai eu à négocier avec les Iraniens la question du nucléaire, je vois bien quel était l'enjeu. Lorsque j'ai eu à présider la fameuse COP21, l'accord de Paris, selon qu'on aboutissait à quelque chose ou qu'on échouait, ça avait une conséquence sur le monde. Donc c'est le sentiment de responsabilité que j'ai eu, évidemment, à plusieurs reprises. Mais peur, non.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même, s'il vous arrive de passer du temps avec vous-même ? Est-ce que c'est possible quand on sert l'État depuis aussi longtemps ?
Je me suis habitué à la cohabitation. Non, ça se passe bien, parce que je suis d'un tempérament, finalement, plutôt paisible. Ce qui est vrai, c'est que je suis curieux. Je réfléchissais avant de venir à cette émission, parce que je me doutais que vous alliez me poser quand même quelques questions, qu'il n'y aurait pas uniquement des silences. Ce serait long. Et donc j'ai passé dans ma tête en revue la diversité des activités que j'ai faites. Et c'est vrai que le champ est très vaste, mais c'est dû à ma curiosité. C'est une curiosité qui fait que je m'intéresse à toute une série de sujets très divers, et c'est ça qui fait aussi le prix de la vie.
On va y revenir à cette curiosité, mais j'ai une interrogation. Laurent Fabius, il vous est arrivé de citer ce mot de Mitterrand. En politique, quand ça va, c'est ennuyeux. Quand ça ne va pas, c'est pire. Il faut toujours rester prudent. N'avez-vous jamais été découragé dans vos fonctions ?
Oui, j'ai eu des coups durs, hein, comme tout le monde. Mais c'est vrai que, en général, j'ai repris le dessus. Il y a une phrase de Mandela que j'ai rencontré, et qui était un homme magnifique. Et je crois qu'il a dit un jour, alors qu'il était lui-même très humble, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
C'est très joli.
C'est un beau résumé.
Oui. Dans Les blessures de la vérité, vous parlez beaucoup de François Mitterrand qui répétait cet axiome numéro un de la politique, la vie est du judo. Est-ce que vous l'appliquez ?
Moins que lui. C'est vrai que j'ai été très proche de François Mitterrand, et ça m'a toujours frappé la capacité qu'il avait, même dans les moments très difficiles, et il en a connu, de retourner la situation. C'est ce que j'appelle l'ambivalence mitterrandienne, c'est-à-dire qu'il avait une analyse métaphysique qui faisait que dans toutes les situations difficiles, il voyait aussi le bon côté possible des choses. Et évidemment, si on est critique à son égard, on dit mais c'était un Florentin, c'était quelqu'un qui était un technicien, etc. Cet aspect existait et il n'était pas maladroit, c'est un euphémisme. Mais il y avait plus profondément cette vision que toute situation présente un double caractère. Vous savez, en chinois, c'est le même mot qui dit la chance ou le risque. En carrique aussi, d'ailleurs.
Laurent Fabius, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez un tempérament plutôt optimiste, mais souvent, quand on vous lit, quand on vous pose la question « êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ?», vous répondez
« volontariste ».
Volontariste.
Oui, c'est vrai, parce que le monde, quand même, oui. assez dur, assez triste, assez féroce. Mais une fois qu'on a dit ça, ou bien on reste chez soi et on allume la télévision, ou bien on dit, chacun dans sa sphère, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose pour améliorer un petit coin de ce monde ? Alors, ça n'empêche pas d'être lucide, et la lucidité amène souvent à un constat de difficulté. Mais la lucidité, pour moi, ça suffit pas, et j'y ajoute la volonté. Et c'est comme ça qu'on transforme, à sa mesure, et dans le champ qui vous est donné, les choses.
Revenons à la curiosité, qui est ce qui vous donne envie de vous lever ? Pouvez-vous, à l'instar du journal de ce que j'apprends chaque jour de Victor Hugo, un auteur que vous affectionnez, nous dire ce que vous avez appris récemment ?
Ce que j'ai appris récemment, compte tenu du moment où vous m'interrogez, qu'il ne fallait pas trop manger au moment des fêtes de fin d'année, parce que sinon, il y avait des conséquences que j'appellerais physiques.
Vous le saviez.
Je le savais, mais je l'avais un peu oublié. Qu'est-ce que j'ai appris récemment ? J'apprends tous les jours. Je lis beaucoup la presse, j'écoute, j'aime bien la télévision. C'est assez probablement dépréciatif pour un responsable public de dire qu'on aime la télévision parce qu'il faut ne pas l'aimer. Moi j'aime bien ça. Y compris d'ailleurs, je le dis, je l'affiche, les créations françaises, les feuilletons, les séries. Je suis très bon public et il n'y a aucune nuance péjoratif. J'aime ça.
Parlons donc, suite à la télévision, d'art. Laurent Fabius, bien que vous ayez consacré des ouvrages aux œuvres d'art, votre intérêt pour elles ne fut pas immédiat. Jusqu'à l'âge de 30 ans, vous les rejetiez totalement.
Oui, ça c'était mon parcours. Je suis d'une famille d'antiquaires. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, était antiquaire. Mon père et mes oncles étaient antiquaires. Mon frère était antiquaire. Et donc, j'ai baigné, quand j'étais tout jeune, dans ce milieu. Et, pour vous faire une confidence, mon père nous emmenait, mon frère, ma sœur et moi, à peu près toutes les semaines, au Louvre. Bon, à partir de là, il y a deux réactions possibles. Ou bien on devient fanat d'art tout de suite, ou bien on fait une espèce de blocage. Et c'est ce qui s'est produit en ce qui me concerne. Donc, au moment où j'ai pu dire non à mon père, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, j'ai fait ce blocage, et donc entre l'âge de 16 et 30 ans, tout ce qui avait une coloration artistique, la peinture, la sculpture en particulier, m'était pas seulement étranger, je le rejetais. Et puis, ce qui était idiot, mais enfin c'était ma réaction. Et puis ensuite, est-ce que c'est par atavisme ou pour d'autres raisons, j'y suis revenu progressivement, au point que c'est devenu un peu plus tard, une véritable passion. Donc, vraiment, j'ai tourné de 180 degrés. Alors, ça veut dire que j'ai repris le chemin des musées, des galeries, des livres d'art. Et puis, je me suis mis moi-même à écrire sur l'art. C'était mon premier bouquin, au titre de genre Alexandre Dumas, qui s'appelle Le Cabinet des Douze, où je disais un certain nombre de mes goûts en matière de tableaux. Et puis, j'ai franchi un pas supplémentaire il y a une dizaine d'années lorsque ma compagne m'a fait don d'un matériel de peinture. Bon, je m'y suis mis. Au départ, c'était très très mauvais. J'espère que ça s'est amélioré depuis, mais c'est resté personnel. Et puis, j'ai recommencé récemment avec un livre sur les polyptiques, oui, vous avez très bien prononcé tout à l'heure, qui s'appelle Tableau pluriel, où j'explique, à travers l'histoire de l'art, ce cheminement particulier des tableaux à plusieurs panneaux, depuis les retables du Moyen-Âge jusqu'aux œuvres de Bacon ou de John Mitchell. Et donc, aujourd'hui, l'art, que ce soit comme observateur ou comme, entre guillemets, créateur, c'est une des très très grandes passions de ma vie.
Alors justement, au sujet de ce livre, à un moment, vous faites figurer l'autoportrait en trois personnes de Yan Peiming, au milieu duquel l'artiste se fait figurer en pape. Oui. Si vous deviez, vous, Laurent Fabius, choisir trois statues vous définissant le plus pour un autoportrait sur le même modèle, comment choisiriez-vous de figurer ?
Alors d'abord, Yan Peiming est un ami personnel et qui a un talent extraordinaire, qui est d'origine chinoise mais qui est français, et qui est un portraitiste extraordinaire. Et j'avais été frappé dans une exposition qui avait lieu à Avignon par son immense triptyque. Alors lui a choisi effectivement de se représenter souvent pape. Moi, c'est pas mon tropisme immédiat. Bon, je vais pas non plus me représenter en fourmi. Mais je ne sais pas. Alors, je vais faire une réponse qui fuit un peu. Mes peintures
politique.
Sont abstraites.
D'accord. Vous vous en sortez bien. Mais je n'oublie pas que vous n'avez pas répondu. Dans un instant, il sera entre autres question de COP21, de Victor Hugo, de Balzac et Flaubert, de Nelson Mandela, de justice, de possible et de sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Fatigués les porterios, fatigués toujours de l'avoir dans l'os. Inflation, chômage et des promesses, pays du futur, mais rien ne presse. Traîne un peu les pieds dans l'inflation, qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les porterios sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés.
Mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués.
Par les temps qui court, investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand il n'y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminer les rêves d'argenter, c'est pour les poètes et pour la rime. Douloureux dollar les a usés, oui les porteños sont épuisés. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés.
Mais les porteños sont fatigués, mais les porteños sont fatigués.
Alors chaman, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés.
Mais les porteños sont fatigués, mais les porteños sont fatigués.
Porteños sont fatigués de Bernard Lavilliers dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes en studio avec Laurent Fabius et voici une cantate d'Haydn que j'ai choisie pour introduire ce que vous souhaiteriez changer dans la société. Sous la direction d'Andreas Spering, une cantate d'Haydn consacrée aux quatre vertus, temperantia, prudentia, justitia et fortitudo, courage. Laurent Fabius, vous aimeriez davantage de justice dans la société, y avait concrètement œuvré par la mise en œuvre de lois et de réformes. Vous dirigez actuellement le Conseil constitutionnel, qui est chargé de vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. J'ai une question, puisque comme il s'agit d'une instance de contrôle de l'exercice du pouvoir, vous qui connaissez les deux côtés, quels sont les rapports du gouvernement avec ce gardien de la loi? Le trouve-t-il ennuyeux? Vous le trouviez-vous limitant? Et aujourd'hui, avez-vous changé d'avis en le dirigeant?
Il y a peu de rapports entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel, et c'est très bien comme ça, parce que, vous l'avez souligné, notre rôle au Conseil constitutionnel, c'est de décider si les lois, qui évidemment sont souvent faites par le gouvernement, même si elles sont votées par le législateur, si les lois sont conformes ou non à la Constitution. Et dans les vraies cours suprêmes, comme c'est le cas du Conseil constitutionnel, il y a une indépendance. Alors l'indépendance, ça veut dire que on ne reçoit pas d'instructions. Donc les rapports sont limités. Mais évidemment, c'est un avantage, soi-même, d'avoir connu ce qu'est la responsabilité du pouvoir, parce que ça permet de prendre des décisions éclairées.
Je me permets une parenthèse, parce que c'est une chose que j'ai trouvée très intéressante en lisant plusieurs de vos textes, Laurent Fabius. Votre appréhension des problèmes, la question que vous posez systématiquement à vos collaborateurs, vous ne posez pas la question « quelle est la clé du succès ?», vous posez la question « quelles sont les erreurs à éviter et quels sont les problèmes principaux que vous aurez à affronter dans les 10 ans à venir ?» Ça revient régulièrement.
Oui, alors, sur les deux aspects, à la fois l'échec et le futur, moi j'ai été toujours frappé par le fait que l'échec, il menace toute tentative, mais il permet d'apprendre beaucoup de choses. C'est un des défauts de la société française qu'on condamne les gens dès qu'ils ont subi un échec. Or, je ne dis pas qu'il faut rechercher l'échec, évidemment pas, mais l'échec apprend beaucoup. Et lorsqu'on veut entreprendre des choses, lorsqu'on dérange donc un ordre établi, nécessairement il y a des résistances. Bon, et donc la politique dont je ne veux pas parler ce matin, ça consiste très souvent à anticiper, à décider et ensuite à résister. Sur le futur, ça c'est la manière dont mon esprit est formé. J'essaye toujours d'anticiper et de regarder comment préparer le terrain du futur. J'ai toujours été fabriqué comme ça et c'est un élément de ma curiosité.
Alors, on ne va pas parler de politique, mais on va tout de même parler de choses qui concernent la société. Vous avez été, Laurent Fabius, en 2015, président de la conférence de Paris sur le climat, la COP21. Vous avez joué un rôle très important dans l'obtention du premier accord universel contraignant, ayant pour objectif de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Vous avez été très ému au moment de présenter le projet d'accord. Vous n'aviez pas dormi pendant plusieurs nuits. Il y avait 195 pays à convaincre. C'est une expérience sur laquelle vous revenez dans 37 Quai d'Orsay et dans Rouge Carbone, ouvrage consacré au réchauffement climatique. Je voudrais vous interroger, si vous me le permettez, sur les émotions. Puisque vous dites, dans Les blessures de la vérité, la première phrase c'est « Laurent Fabius a-t-il une âme ?» Et vous dites que c'est une question qu'on vous a toujours posée, puisque vous avez cette réputation d'être placide, froid, d'une intelligence froide et politique.
Oui, mais ça, vous savez, la configuration qu'on a, si on est gros, si on est maigre, si on a une figure plutôt joufflue ou pas joufflue, on n'en est pas responsable. Mais c'est vrai que dans mon cas, et j'ai peut-être une part de responsabilité, on me tape pas spontanément sur l'épaule. Bon, ça aurait dû être un grand handicap pour mon parcours politique. Et finalement, ça l'a pas été parce que les gens se sont dit, enfin en tout cas beaucoup de gens, ce gars-là, il est sérieux. C'est peut-être pas avec lui qu'on voudrait passer ses vacances, mais il est sérieux, il réfléchit. Tous ne se sont pas dit ça. Certains, simplement. Bon, mais je suis fabriqué comme ça. Mais en même temps, cette dimension de sérieux que j'assume, lorsqu'elle est mise au service d'idéaux, lorsqu'elle permet d'avancer, c'est ça qui vous forge des amitiés profondes. Un aspect de ma vie publique, qui n'est pas connu, mais l'un des aspects les plus importants, c'est que j'ai été élu local pendant près de 40 ans. Dans une ville, vous l'avez cité, Grand-Queville, ville ouvrière, et vraiment c'est là où j'ai presque tout appris, parce que j'étais un fils de bourgeois parisien, donc je ne connaissais pas la réalité de la vie. Alors j'avais fait des très très brillantes études, mais bon, ça c'est qu'une partie du sujet. Et quand j'ai eu la chance de m'implanter dans cette région, la région rouennaise, j'ai acquis à la fois des amitiés durables et une expérience extraordinaire. Je raconte toujours cette anecdote. Vous savez, même quand j'étais ministre, premier ministre, je continuais de faire des permanences. C'est-à-dire que j'avais mon bureau ouvert et puis les gens pouvaient venir. Alors, les gens venaient pour un problème de sécurité sociale, un problème d'emploi, etc. Et une fois sur 5 ou une fois sur 10, à l'issue de la conversation, ils me disaient « Au revoir, docteur ». Bon, y a quelque chose qui passe, si vous voulez, alors qui passe auprès de la population et qui vous apprend énormément de choses. Et c'est un des postes, une des fonctions que j'ai préférées et qui nuance ce côté un peu trop sérieux que je peux avoir parfois.
Là, vous parlez de sérieux, Laurent Fabius, mais moi je vous parle d'émotion. Les deux émotions qui affleurent quand on vous lit, c'est l'élection de Mitterrand, et la COP21, les accords de Paris. Je voudrais vous poser la question frontalement. Peut-on mettre les émotions de côté ou s'y entraîner en donnant plus de place à la vie des idées? Vous pensez que c'est un tempérament, mais quelqu'un qui serait affecté par tout, quel conseil lui donneriez-vous?
Non, mais il ne faut pas mettre les émotions de côté.
Mais quand elles nous affectent trop?
Non, mais évidemment, si vous avez une responsabilité publique et que à chaque fois qu'on vous fait une remarque, vous éclatez en pleurs, ça pose un problème à court terme.
On ne peut pas s'entraîner à être plus solide?
Non, on peut s'entraîner à ne pas rire. Par exemple, moi j'ai un truc, je vous le donne. Quand il y a quelque chose qui est dit en face de moi et qui me fait rire alors que je devrais pas rire, je mords l'intérieur de la joue. Parce que ce serait pas bien quoi d'éclater de rire. Non, mais revenons au fond. L'émotion, c'est très important. Bon, alors il faut surmonter ces émotions, mais il ne faut pas les laisser de côté. Et c'est vrai, à la fameuse COP21, qui est l'accord mondial qui a permis de définir quels sont les objectifs qu'il faut absolument respecter en matière de lutte contre le dérèglement climatique, à la fin, et puis il y avait la fatigue, ça faisait 15 jours qu'on travaillait jour et nuit, et puis j'avais devant moi tous les ministres, les chefs de gouvernement qui avaient depuis des décennies essayé d'obtenir cet accord. Et là, je sentais que c'était vraiment au bout de mon petit coup de marteau. Voilà, on n'est pas de bois. Le marteau est en bois, mais soi-même, on n'est pas de bois.
Et pour la rage et la tristesse ?
Oui, la tristesse, mais il faut la... Il faut la maîtriser. Mais je n'aimerais pas du tout être quelqu'un à l'intérieur de froid. Vous savez ce qu'on disait sur... c'était sur Jules Grévy. Ces roses poussent en dedans. C'est une jolie formule.
Très jolie. Découvrons les êtres, artistes et rencontres qui ont changé votre rapport au monde, Laurent Fabius.
Je suis allé aujourd'hui pour la première fois à l'Assemblée nationale. La salle est d'une laideur rare. Des poutres au lieu de colonnes, des cloisons au lieu de murailles, de la détrempe au lieu de marbre. Quelque chose comme la salle de spectacle de Carpentras élevée à des proportions gigantesques. La tribune, qui porte la date des journées de février, ressemble à l'estrade des musiciens du Café des Aveugles. Les représentants sont assis sur une planche couverte d'une serge verte et écrivent sur une planche nue. Je retrouve là plusieurs huissiers de la Chambre des Pairs. L'un d'eux me regarde, longtemps, d'un air mélancolique.
Michel Etcheverry lit un extrait de « Choses vues » de Victor Hugo, plus précisément la première séance d'Hugo à l'Assemblée nationale le 20 juin 1848, quelques jours avant que n'éclate l'insurrection, rappelle Jean Follin, juste avant l'extrait tiré de son émission « Le livre de chevet » sur France Culture. Laurent Fabius, Hugo est dans votre panthéon existentiel. Quelles lectures vous ont marqué et comment a-t-il façonné ou modifié votre vision du monde ?
Mais reprenons cet extrait. Hugo a dû changer d'avis à propos de sa perception de la Chambre des députés.
Il a beaucoup changé d'avis politiquement.
Oui, mais parce que quand je présidais à l'Assemblée nationale, j'ai vu des textes de Hugo qui étaient des textes où il préparait ses discours. Et il y avait, c'est là où vraiment on sent à la fois le génie et puis le travail, il prononçait des discours qui étaient extrêmement forts et il pressentait l'endroit où il allait être interrompu. Et il répondait à l'avance, par écrit, aux interruptions.
Comme Jean-Jacques Rousseau.
C'est la grande classe, hein. Bon, mais pourquoi j'aime Hugo? Comme chacun, j'imagine, à cause d'un talent extraordinaire qu'il a, que ce soit dans la poésie, dans le théâtre, dans la littérature, dans le dessin et la peinture.
Magnifique.
Formidable.
Les encres,
magnifique. Et oui, ça m'avait frappé. Il y a longtemps, j'avais fait une visite à la maison de Hugo, qui est Place des Vosges. Et il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y avait une enveloppe avec marqué « Victor Hugo, océan ». Bon, alors j'avais demandé à la personne qui était là, mais pourquoi on a mis cette enveloppe comme ça ? Et la personne avait répondu, mais parce que c'est une enveloppe qui avait été adressé à Hugo sans autre adresse que Victor Hugo Océan et qui est parvenu à son domicile.
C'est magnifique.
Bon, c'est extraordinaire. Bon, ben alors c'est l'océan, à la fois l'océan calme de temps en temps, l'océan tumultueux dans d'autres fois. Et c'est vrai qu'il a eu des opinions politiques changeantes, pour employer un mot neutre. Mais il y a quand même quelques points où il est resté absolument fidèle à lui-même et qu'évidemment je partage. Sa lutte contre la peine de mort, sa défense des opprimés, ses anticipations sur l'Europe. Si on peut définir le génie, prenons cet exemple-là.
Oui, il n'est pas mal. Laurent Fabius, vous avez appartenu à des gouvernements dans lesquels les hommes politiques étaient des intellectuels et où le verbe rayonnait. Quels auteurs, je ne vais pas vous demander si vous êtes attristé par son usage actuel, mais quels auteurs recommandez-vous pour s'imprégner de belles langues, pour améliorer sa langue ?
D'abord, l'éloquence. L'éloquence a été tuée par deux appareils d'ordre différent, l'invention du micro et l'invention de l'École nationale d'administration. Bon, si vous prenez la vie de Jaurès parlant sans micro à l'intérieur des arènes de Béziers à 15 000 personnes, bon, aujourd'hui, ce serait un filet de voix comme ça. Bon, donc l'éloquence, malheureusement, il n'y en a plus. On lui a tordu le cou, comme dit l'autre. Pour ce qui concerne quel était le début de la question ?
c'était les auteurs que vous recommandez.
Oui, les auteurs. Bah, moi, je suis, comme beaucoup de Français, un passionné des romanciers du 19e. Des romanciers français du 19e. Je les lis, je les relis. Je ne peux pas dire que je connais tout, mais enfin, je connais un petit peu, oui, assez bien cette période, et notamment deux auteurs que j'adore, qui sont Flaubert et Balzac, alors qui n'ont pas la même langue. La langue de Flaubert est beaucoup plus travaillée.
Oui.
Elle est magnifique. Mais la langue de Balzac, même si elle est... ça charrie tellement, tellement de puissance, et les personnages sont tellement divers et tellement forts, que ce sont deux auteurs magnifiques, et pas simplement en termes de littérature, mais qui, l'éducation sentimentale d'un côté, la comédie humaine de l'autre, à la fois, c'est pour ça que je les recommanderais, permettent à une jeune personne de se frotter avec ses débuts dans la vie, sur le plan sentimental, qui est très important, sur le plan de la vie pratique et sur le plan de la vie publique. Donc ce sont deux maîtres avec, évidemment, ça c'est une différence, une vision quand même assez pessimiste que je respecte, mais que je ne partage pas.
De temps à autre, un des convives disparaissait. À 11h, comme les derniers s'en allaient, Arnoux sortit avec Pellerin, sous prétexte de le reconduire. Il était de ces gens qui se disent malades quand ils n'ont pas fait leur tour après dîner. Madame Arnoux s'était avancée dans l'antichambre. Dittmer et Hussonnet la saluaient. Elle leur tendit la main. Elle l'attendit également à Frédéric. Et il éprouva comme une pénétration à tous les atomes de sa peau. Il quitta ses amis. Il avait besoin d'être seul. Son cœur débordait. Pourquoi cette main offerte ? Était-ce un geste irréfléchi ou un encouragement ?
L'éducation sentimentale,
oui,
de Flaubert,
c'est un bon passage.
Lu par Yves-Marie Morin. Pour être armé dans l'existence, Laurent Fabius, vous recommandez Balzac et Flaubert que vous venez d'évoquer, qui ont aussi bien dépeint la société que les êtres qui la composent. Procédons par ordre d'ancienneté. Balzac, vous l'avez cité à la conférence des chefs des cours suprêmes des États membres de l'Union européenne le 22 février dernier, en faisant allusion à la guerre en Ukraine. Et cette phrase m'a permis d'apprendre un sens que je ne connaissais pas sur un mot courant. Dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze. Bronze dans le sens se durcir,
oui,
comme si on était recouvert d'une couche de bronze.
Oui.
Vous retenez les phrases des grands auteurs de mémoire ou vous les archivez en les recopiant ?
Bon, j'ai une bonne mémoire visuelle, donc quand je lis quelque chose, souvent je le retiens. Même si, paraît-il, avec l'âge, la mémoire s'affaisse. Enfin, pour l'instant, ça tient à peu près.
Là, vous évoquiez très brièvement la comédie humaine. Pensez-vous que dans toute grande entreprise, et je parle aussi bien des champs artistiques que politiques, toute grande entreprise nécessite une certaine mégalomanie ?
Non, je ne crois pas. Une certaine ambition. Mais la mégalomanie, sauf erreur de ma part, c'est un défaut d'analyse de la réalité. Un défaut par le haut et pas par le bas. Mais autant ne pas se tromper. Je pense que la lucidité fait partie des qualités qu'on demande à un grand responsable. Donc la mégalomanie, non, parce qu'elle aboutit souvent à de grands drames. Non, il faut être ambitieux, au bon sens du terme, mais mégalomane, certainement pas. Hitler était mégalomane, Mussolini était mégalomane, et il y a certains exemples actuels qui viennent à l'esprit dans des pays qu'on connaît bien.
Alors écoutons un ambitieux dans le bon sens du terme.
Mes chers amis, chers camarades, et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple. Ce sont vos sacrifices héroïques qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui.
Le journal du 11...
C'est Mandela, ça.
Oui, bien sûr. C'est le journal du 11 février 90 sur France Inter. Jean-Marc Four traduit en direct les premières paroles de Nelson Mandela après 27 années de prison. Laurent Fabius, vous lui avez rendu hommage à sa mort. Vous étiez alors ministre des Affaires étrangères, oui. Dans un texte dans lequel vous évoquez votre admiration personnelle pour cette icône de la lutte contre l'apartheid. Vous le citez aussi dans Rouge Carbone. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde.
Oui, Mandela, je l'ai rencontré plusieurs fois, à la fois en Afrique du Sud et puis en France quand il est venu. Et c'est un homme dont l'action était admirable. Bon, c'est à lui que on doit la fin de ce régime épouvantable de l'apartheid, mais qui était d'abord impressionnant par son physique. Il était très grand, droit comme un nid. Il était dur. On l'a oublié. Maintenant, on met Mandela dans une espèce de coton. Mais Mandela, au départ, c'était le parti communiste. Et pour tenir 27 années en prison, avec évidemment des sollicitations multiples qu'il n'a jamais acceptées, c'est un combat magnifique. Récompensé à juste titre par le prix Nobel de la paix. Et un souvenir inoubliable. J'associe à Mandela Desmond Tutu, que j'ai bien connu. J'ai une anecdote à ce propos qui me vient à l'esprit. J'étais Premier ministre et je reçois Desmond Tutu à Paris. Et je devais aller de Matignon à l'Assemblée nationale. Et donc on chemine ensemble à pied. Et Desmond Tutu, vous voyez comment il était. Il n'était pas très grand, il était sautillant comme ça. Et on marchait dans la rue comme ça, et il n'y avait pas de gendarmes autour de nous. Et Desmond Tutu me dit mais c'est incroyable, je vis quelque chose d'incroyable. Toi tu es blanc, moi je suis noir. Tu es Premier ministre, moi je suis... et on marche dans la rue et personne ne nous agresse. J'y crois même pas. Bon. Et donc, Mandela, Tutu, ce sont des hommes qui ont fait avancer la cause de l'humanité. Et donc, au nom de la justice, qui est la grande cause, ce sont pour moi des héros.
On parle de grande histoire. Revenons à quelque chose qui vous concerne plus personnellement, Laurent Fabius. Il y a un autre individu qui a joué un rôle très important dans votre parcours. C'est votre institutrice. Est-ce que c'est celle que vous mentionnez dans Les blessures de la vérité, Mademoiselle Soubi ?
Oui, c'est vrai.
Parce qu'elle vous faisait écrire quelque chose.
Oui, elle faisait écrire en haut de chaque copie « Fais bien ce que tu fais », hein, traduction du latin. Et c'était une institutrice ancienne manière. Bon, elle était toujours habillée de sombre, elle avait un beau visage, des yeux bleus perçants, un chignon, des cheveux blancs. Et vraiment, la hussarde de la République. Hein. Mais fais bien ce que tu fais. Ben finalement, à force d'écrire cela sur ces copies, ben ça pénètre.
Thank you.
Pictures of You de Drug Dealer et Kate Bollinger dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Fabius, à qui j'ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie, et vous avez répondu « faire mon possible ». C'est pour ça que j'avais choisi de parler de Descartes au début de l'émission. En exergue de Rouge Carbone, vous citez le général de Gaulle, entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Mais vous, faire mon possible, ça vient du chancelier allemand Willy Brandt, et je vous laisse nous expliquer pourquoi.
Oui, c'est tout à fait exact. Willy Brandt était un chancelier qui a beaucoup travaillé au rapprochement entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Bon, on l'a oublié maintenant, mais enfin, les deux pays étaient non seulement séparés, mais très hostiles. Et Brandt, un peu à brousse-poil d'une partie de l'opinion publique de son pays, a pensé que l'avenir de l'Europe, il était très européen, était dans le rapprochement et finalement la fusion entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on lui a demandé à la fin de sa vie quelle phrase voudriez-vous qu'on fasse figurer sur votre tombe, il a réfléchi et il a dit « j'ai fait mon possible ». Et j'ai trouvé que, dans son cas, c'était pas de la fausse modestie, que c'était une conception très très forte et finalement admirable du sens d'une vie consacrée à la chose publique. Voilà, il a eu la chance, et il a aidé la chance, d'accéder aux plus hautes responsabilités, et il a utilisé cette chance pour faire que le souhaitable devienne possible. Ce qui est une assez belle définition de la politique.
Vous, Laurent Fabius, vous avez toujours fait votre possible, vous n'avez aucun regret ?
Ben si, bien sûr, des regrets. On a énormément de regrets. Bien sûr, j'ai beaucoup de regrets. J'ai eu une chance extraordinaire. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Mais enfin, j'ai eu la chance, vous l'avez rappelé au début de l'émission, de diriger l'exécutif, de diriger le législatif, maintenant de présider la Cour suprême constitutionnelle, de travailler au niveau national, au niveau international, au niveau local, de m'intéresser à l'art, de m'intéresser à l'économie, de présider la grande conférence sur le climat. Bon, c'est des chances extraordinaires. Donc, à chaque fois, j'essaie de faire mon possible, mais surtout aussi de faire que ce possible soit ouvert aux autres. Hein. Au fond, c'est ça le sens d'une vie.
Alors, il y a une chose où vous avez peut-être fait votre possible, mais que vous avez raté, Laurent Fabius, c'est la pratique d'un instrument de musique.
Ah oui, ça je suis nul. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Bon, j'ai rattrapé un petit peu les choses en matière artistique en me consacrant à la peinture, pour une part, depuis quelques années. Mais je n'ai jamais eu la chance, ni le courage, c'est pas ce qu'il faut dire, d'apprendre la guitare, le piano, la trompette, le saxo. Et je le regrette beaucoup. Mais je pense pas que je vais m'y mettre maintenant.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première apparition à la télévision ?
Oui, je m'en souviens très bien, d'autant que si je ne m'en souvenais pas, on me le rappelle
tout
à
le
chaque
temps.
Fois qu'intervient un élément dans ma vie, quand j'ai un problème ou une promotion.
Alors, ah bon c'est moi, ce n'est pas pour ça que je voulais vous le rappeler.
C'est l'histoire de l'émission télévisée. Oui, alors, on appelle ça la tête et les jambes. En fait, j'ai vérifié, ça s'appelait Cavalier seul.
Oui, ça a été décliné par la suite.
Et il fallait à la fois répondre à des questions absolument infernales. Bon, je serais incapable de répondre à la moindre question. À l'époque, c'était la littérature. Mais heureusement, on pouvait être rattrapé, si je peux dire, par le cheval. Puisque à l'époque, je faisais beaucoup d'équitation. Et j'avais un bon cheval qu'on m'avait prêté. Bon, donc le cheval a suppléé mes carences en matière littéraire.
Alors, le cheval et vous, mais si vous me voyez venir un peu, Laurent Fabius, avec mes gros sabots, c'est parce qu'on arrive à l'engagement de fin d'émission. Et que cette année 1970, où on vous voit apparaître sur un cheval, faire du saut d'obstacle, dans cette émission présentée par Pierre Belmar, eh bien, ça rejoint l'engagement que vous prenez dans cette émission ce matin, c'est faire plus de sport. Et oui, c'est lourd.
C'est téléphoné, votre truc.
Oui,
non, mais j'adore le sport.
J'aime ça, j'aime
le sport. Quand j'étais jeune, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis, j'ai fait du cheval, etc. Et bon, moi je pense que c'est... Maintenant je suis plutôt téléspectateur sportif, mais oui, je voudrais, pour l'année qui s'ouvre, faire davantage de sport. Et comme on est dans les premières semaines, jusqu'à présent, cet engagement est respecté avec la pratique du vélo d'appartement. Vous voyez, il y a une confidence hein, très importante. Mais je marche tous les matins quand je vais à mon bureau, donc ça c'est très bien, parce que la marche est très positive. Maintenant, le vélo d'appartement. Et puis, la télévision assidue pour le rugby, pour le foot et pour le reste. Bon, donc, je suis comme beaucoup de Français, sportif à carte de temps.
Laurent Fabius, je remercie votre tête et vos jambes d'être venus dans cette émission.
Oui, puis d'être venus les deux ensemble.
Oui, c'est mieux, mais je vous interrogerai séparément aussi. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Tableau pluriel, Voyage parmi les polyptiques d'hier et d'aujourd'hui, est sorti il y a quelques mois chez Gallimard. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez la jovialité d'un craquelin illusionniste à la fin d'une représentation réussie. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.